Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du club Hygiène. Apple pourrait profiter de l'occasion des iPhone 15 Pro pour changer complètement les boutons de volume et le commutateur du silencieux. Ça n'a l'air de rien, mais ça ouvre des horizons assez intéressants qu'on va explorer aujourd'hui dans le Flash Info. En deuxième partie d'émission, Anthony a plongé les yeux et les oreilles dans l'application Apple Music Classical. Que vaut le nouveau service de musique classique d'Apple? Est-ce qu'elle est adaptée aux noobs et aux amateurs éclairés du genre? Il va tout nous dire tout à l'heure. Nous sommes le jeudi 30 mars, voici les actus qu'il ne fallait pas manquer ce matin. On ne va pas se mentir, iOS 16.5 n'a pas l'air très riche en nouveautés. La première bêta qu'Apple a livrée cette semaine contient peu de changements, en tout cas de changements visibles. Il y a par contre une découverte intéressante dans le code de cette bêta pour l'application TV. Elle pourrait bien permettre de visionner jusqu'à 4 flux vidéo en même temps sous la forme d'une grille. L'idée du multiplex n'est pas franchement nouvelle, en fait c'est quelque chose qui est déjà très utilisé par les amateurs de sport, ça leur permet de suivre plusieurs matchs en simultané. Ou encore par les accros à l'actu pour regarder quatre chaînes d'infos en continu parce que, bah pourquoi pas. L'intérêt ici, c'est de voir qu'Apple travaille sur une telle fonction. Ça veut dire que le mode multiplex pourrait par la suite être exploitable par tous les développeurs sans qu'ils aient à chaque fois à réinventer la roue. En fait, il s'agirait simplement d'une API facile à intégrer dans n'importe quelle app. L'utilité pour Apple est en tout cas assez évidente. On pourrait regarder plusieurs matchs de la MLS sans devoir zapper à tout bout de champ, ou 4 épisodes de Ted Lasso en simultané. Franchement, ça fait envie. Ça coince encore en France dans les Apple Store. Un nouvel appel à la grève a été lancé pour ce samedi 1er avril dans le réseau des 20 boutiques françaises du constructeur. Les revendications portent sur les salaires qui ont pris un coup sur la tête à cause de l'inflation, notamment à Paris et dans la région parisienne où le coût de la vie est plus élevé qu'ailleurs. Les salariés à l'origine du mouvement demandent aussi un meilleur équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, une prime de pénibilité pour les employés du backstage qui gèrent les stocks, ou encore une semaine à 32 heures. De manière plus localisée, il y a une revendication spécifique concernant le niveau de bruit dans l'Apple Store Opera où il y a un problème d'acoustique. Pour les utilisateurs, ce mouvement de grève ne devrait pas avoir trop d'impact puisqu'on ne connaît pas l'ampleur de la mobilisation, évidemment. Et puis, l'arrêt de travail devrait durer 3 heures. Mais ça pourrait quand même annuler des rendez-vous au Genius Bar ce samedi. Vu que le design de l'iPhone n'évolue plus que par petites touches, le moindre changement d'une génération à l'autre est scruté de très près. Et quand on parle de touches, ce n'est pas qu'une image. Une des nouveautés de l'iPhone 15 Pro et du Pro Max devrait en effet être un nouveau bouton pour le volume. Les boutons mécaniques, ce serait tout simplement du passé. Apple devrait les changer par des boutons tactiles avec des retours haptiques, un peu comme le bouton d'accueil Touch ID depuis l'iPhone 7. Il y a quand même deux cas de figure qui risquent de se présenter. D'abord, quand l'iPhone est simplement éteint, les boutons resteraient quand même actifs, mais possiblement sans le retour haptique. L'autre scénario plausible, c'est lorsque la batterie du smartphone est complètement vide. Là aussi, les boutons resteraient actifs, mais cette fois, sans aucun retour physique. Les nouveaux boutons tactiles seraient en fait connectés à une puce spécifique, elle-même reliée à une réserve d'énergie, à part de la batterie. En fait, cette réserve d'énergie, elle existe déjà, elle permet d'utiliser une carte de transport, même quand l'iPhone est éteint. Mais la nouvelle puce et sa petite batterie personnelle remplaceraient la réserve d'énergie actuelle. Oui, ça paraît bien compliqué, surdimensionné pour un bouton de volume, mais enfin, il faut ce qu'il faut. On va rester encore un peu sur cette histoire de bouton tactile puisque Apple pourrait faire un sort au commutateur sur la tranche. Vous savez, c'est ce gros bouton mécanique qui permet de passer l'iPhone en silencieux. Lui aussi pourrait bien devenir tactile sur l'iPhone 15 Pro et il y a même mieux que ça. Il s'agirait en fait d'un bouton programmable, un peu comme le bouton d'action de l'Apple Watch Ultra. On peut imaginer toutes sortes de possibilités, comme par exemple de prendre une photo simplement en touchant le bouton, ou encore d'activer la lampe torche, de prendre une capture d'écran, de lancer le mode ne pas déranger. Tenez, il serait même possible de mettre l'iPhone en silencieux, soyons fous après tout. En tout cas, transformer ce commutateur idiot en bouton d'action, ça aurait beaucoup de sens, et ça le rendrait vraiment pratique pour tous les gens qui se contentent de l'utiliser une seule fois après avoir acheté leur iPhone. La musique classique peut faire un peu peur à première vue. C'est vrai que pour le profane, on peut se perdre dans le catalogue foisonnant et les codes du genre qui sont parfois obscurs. Apple tente sa chance avec une nouvelle application officiellement disponible depuis cette semaine et avec Anthony, on a voulu aller un peu plus loin dans la découverte de cette nouveauté. Salut Anthony.
Salut Mickaël, salut à tous.
Alors tu es notre résident permanent spécialisé dans la musique classique, et avant de rentrer dans les détails, je voulais savoir si le fait de voir Apple s'intéresser de si près au classique, c'était finalement une bonne nouvelle pour le genre.
Ou alors, résident de pacoté, hein, faut le dire, parce que c'est pas parce que je vais à l'auditorium 6 fois par an que je suis un expert absolu. C'est quand même une bonne nouvelle. On en discutait dans un précédent sortie de veille, mais la musique classique pose des questions que les autres genres posent pas. Il faut dire qu'elle était bien à l'étroit dans l'interface très générique de l'application musique qui est conçue pour toutes les musiques. Tout ce qui est, distinguer un compositeur d'un interprète, une œuvre d'un album, et un album que peut contenir plusieurs œuvres, ou même faire distinction entre un chef et son orchestre, et puis entre les ensembles et les solistes. Enfin, toutes ces questions qui sont spécifiques à la musique classique et à certains autres genres sont assez cruciaux pour qu'on puisse profiter de la musique classique sans trop s'arracher les cheveux. Ça, c'est des questions que Apple Music Classical résout.
Alors, justement, on va s'intéresser de plus près à cette application Apple Music Classical. Déjà, du point de vue du profane qui n'y connaît rien, mais qui voudrait s'y mettre, genre moi, par exemple, est-ce que c'est accueillant pour ceux qui débutent dans le genre, ou alors est-ce qu'on est jeté dans la gueule du loup et débrouille-toi avec ça?
Ça dépend si tu parles anglais ou pas.
D'accord.
Ce qui est un peu embêtant. Si tu parles anglais, Classical t'accueille avec 9 heures d'histoire de la musique classique, qui sont comptées par Guy Jones, qui est l'ancien responsable éditorial de Primephonic, qui est la petite entreprise néerlandaise qu'Apple avait achetée pour bâtir son service de streaming de musique classique, et qui est encore chez Apple. Ouais. Je sais pas s'il faut appeler ça un album ou un podcast, enfin c'est un truc avec des épisodes. Et chaque épisode est accompagné d'une playlist qui reprend les morceaux cités. Il y a moyen d'occuper quelques journées, c'est assez sympa. Ouais. Il y a aussi une petite demi-douzaine d'artistes qui se sont prêtés au jeu de la playlist titre à titre, donc ils viennent présenter leur dernier album et puis ils commentent chaque piste. Donc pareil, c'est assez pratique pour découvrir pas mal de musique et pas mal de compositeurs. Ouais. Sauf qu'une fois que t'as écouté ça, t'as fait le tour des propositions éditoriales, on va dire les plus ambitieuses.
D'accord.
Parce que tout le reste, ça passe par des playlists plus conventionnelles. Alors, on va pas bouder son plaisir, elles sont très bien leurs playlists, notamment celles qui présentent des compositeurs et des interprètes sont pas mal, c'est une bonne introduction. Et pour ceux qui connaissent déjà un peu plus, il y a aussi des playlists perles rares avec des morceaux moins connus, des monstres sacrés qui sont plutôt sympathique, mais c'est vrai qu'on retombe tout de suite sur des choses beaucoup plus convenues, comme les listes de lecture.
Alors, voilà pour les noobs, mais pour le vrai amateur de musique classique qui se réveille au son de la chevauchée des Valkyries, ça dit quoi Apple Music Classical? Est-ce que c'est une application qui va vite lui devenir indispensable?
Encore une fois, je suis loin d'être un expert incollable capable de te dire quel est le meilleur enregistrement de telle ou telle œuvre, mais disons qu'on va prendre mon exemple. Ouais. On va dire que je suis peut-être un peu plus intéressé que la moyenne par la musique classique. J'ai déjà passé quelques heures à fouiller dans la rubrique Explorer, qui à mon avis est vraiment le cœur de cette application, qui permet de retrouver rapidement un orchestre, d'explorer une période, et même, ça je trouve ça très intéressant, de retrouver toutes les œuvres qui ont été composées pour tel ou tel instrument. Donc moi par exemple j'ai joué beaucoup de guitare classique, j'ai arrêté depuis quelques années, et c'est vrai que c'est assez plaisant en quelques tapes de retrouver les morceaux de Sor ou les morceaux de Tarega sur lesquels je me suis cassé les doigts. Je sais pas d'ailleurs si c'est un plaisir ou une torture, je ne sais pas. Mais de manière générale, toutes les fonctions de navigation, je sais pas s'il faut dire latérale ou transversale, mais le fait de pouvoir taper sur le nom d'une œuvre pour retrouver tous les enregistrements, ou de pouvoir taper sur le nom d'un chef d'orchestre, ou le nom d'un ensemble, ou le nom d'un orchestre. Et ça permet comme ça de naviguer de proche en proche, ce qu'on peut pas faire dans l'application de musique. C'est très difficile de naviguer de manière latérale, c'est très linéaire dans l'application de musique. Ça c'est vraiment sympa, on a l'impression d'être dans un vrai grand magasin avec des gens qui nous aident à découvrir la musique classique, c'est assez cool. Et précisément, tu peux maintenant te mettre à comparer différents enregistrements d'une même œuvre. Hier soir je me suis fait une overdose de Requiem, qui est un truc que j'adore, et puis j'ai écouté de plusieurs compositeurs différents. Où tu peux te faire un grand projet de vie, tu peux te faire l'intégrale des cantates de Bach, c'est assez facile, maintenant c'est quelques tapes. C'est pas encore tout à fait ça, mais c'est une interface, disons, qui est peut-être un peu plus active, un peu plus engageante que celle de musique. Si t'as envie de fouiller, tu peux fouiller.
Est-ce que la musique classique doit toujours être considérée comme un truc pour les vieux monsieur qui n'aiment pas la fantaisie? Parce que au niveau de l'interface, c'est quand même assez plan-plan, je veux dire.
Je pense même que les vieux messieurs, comme tu dis, n'y trouveront probablement pas leur compte. Et au passage, si des vieux messieurs nous écoutent, faut pas le prendre mal, l'ancien directeur technique de Primephonic avait clairement dit que leur service était utilisé par des gens, des hommes, de plus de 55 ans, très instruits, plutôt aisés, enfin le genre de mec qui roule en BM jusqu'en Pologne en écoutant du Wagner à fond, pour reprendre ma blague favorite. Donc faut pas le prendre mal, mais disons, d'abord le fait que ce soit uniquement une app iPhone, précisément pour ce genre de public, c'est pas une bonne idée.
Ouais.
Et même moi qui suis pas encore tout à fait vieux, je dois dire que être au fond de mon fauteuil avec mon iPad, ce serait quand même beaucoup plus confortable qu'avec mon iPhone. Mmh. C'est d'autant moins acceptable l'iPhone que la recherche vocale ou la recherche avec Siri fonctionne mal. Ouais. Ce qui est terrible parce qu'en tapant, le moteur de recherche pour le coup fonctionne plutôt bien. Donc, dès qu'on passe à la voix, ça casse. Et puis, t'as raison, l'interface est assez austère. Je trouve assez amusant qu'Apple se soit senti obligé d'utiliser sa police New York, qui est la même police que celle qui est dans l'application Livre. Tu vois, ça pose un peu l'ambiance. Et puis, enfin, je trouve que la contextualisation est assez indigente. Les biographies et les explications sont très très sommaires. Et puis surtout, et c'est assez surprenant pour la musique classique, il manque les livrets. Or, les livrets, pour le classique et surtout pour l'opéra, c'est quand même pas complètement inutile.
Ouais. Après 2 ans et demi de développement après l'achat de PrimePhonic, est-ce qu'Apple a finalement réussi son coup avec cette application? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup à faire, comme tu sembles le penser déjà?
Oh, les deux, mon capitaine. C'est déjà beaucoup mieux pour les amateurs de musique classique. Mais il reste encore beaucoup, beaucoup à faire. Ouais. D'abord, c'est assez clair, il va falloir rétablir les applications Android et iPad. Je dis rétablir parce que du temps de PrimePhonic, elles existaient. Il va falloir fournir une solution pour le Mac et pour CarPlay. Parce que les gens, encore une fois, de plus de 55 ans, un peu instruits et aisés financièrement, ils écoutent de la musique en voiture. Et pour le moment, Apple a juste parlé de l'application Android. Et pour le reste, elle renvoie vers l'application de musique, ce qui n'est pas satisfaisant.
Ouais.
Ensuite, il va clairement falloir faire quelque chose avec Siri, parce que la recherche vocale est incroyablement défaillante. Mmh. Et puis, moi, j'aimerais bien qu'Apple mène une réflexion sur les autres musiques classiques. C'est d'ailleurs quelque chose qui sous-entend dans ce fameux truc des espèces d'épisodes là, d'histoire de la musique classique, où ils ont cette réflexion sur... Le Guy Jones dit « Ah, la musique classique, c'est musique occidentale, musique européenne. » Sauf qu'il n'y a pas qu'en Europe qu'il y a la musique classique. Et c'est intéressant que l'application Classical ne soit pas disponible dans des pays comme la Turquie, comme la Chine, comme le Japon, pas encore. Or, c'est des pays qui ont des cultures musicales qu'on pourrait qualifier de traditionnelles, à défaut de classiques, mais qui peuvent se comparer à notre musique classique. Si cette application pouvait quelque part nous aider à nous ouvrir les horizons, à faire des ponts avec les autres traditions musicales, et à la limite avec la musique populaire aussi, c'est-à-dire faire des liens entre le classique et la musique populaire, parce que les deux s'interrogent, les deux réfléchissent ensemble. Ça pourrait être un bel outil pédagogique au service d'un genre musical qui a quand même beaucoup, beaucoup souffert du streaming. Mais enfin, disons que pour le moment, je vais pas retenir mon souffle.
Eh bien, merci pour ce coup d'œil et d'oreille dans Apple Music Classical pour un genre qui méritait bien une application dédiée. Maintenant, eh bien, on veut la même chose pour le jazz. Tiens, allez au boulot, Apple. Salut, Anthony.
Le jazz et l'électro.
Et merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin. On se retrouve très bientôt pour de futures aventures.